pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'écoute de Radio Canu. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le Canu Info de ce jeudi 18 novembre 2021. Si vous étiez déjà à l'écoute des bandes continues de cette magnifique radio, toujours aussi rebelle sur le 102.2, je suis avec Laurent ce soir, bienvenue à toi. Nous allons parler d'Israël-Palestine, nous parlerons de Malcolm X, ni Dieu ni Maître, nous partirons pour ça en Finlande et nous irons tout près à Lyon. Nous parlerons de pouvoir d'achat, vous savez ce fameux machin qui s'invite dans la campagne des présidentielles. Nous parlerons nucléaire longuement, ben oui. Ça, c'est...
Pardon.
On oui. a des relents d'une chanson très moche de Renaud. Qui... Oui. Oui, voilà. Et puis peut-être d'autres choses si on a le temps, mais rien n'est gagné pour ce soir, jeudi 18 novembre. C'est à toi.
Oui, je vais commencer par refaire un petit point, reparler un peu d'Israël-Palestine, chose que je fais beaucoup moins ces derniers temps, ces dernières années même. Et on va parler de la vie de tous les jours en Palestine. Occupé. On a appris suite à une belle vidéo qu'un groupe israélien filmé, récupéré en tout cas par un groupe israélien de défense des droits humains qui a publié donc ces images mercredi hier qui montrent des soldats israéliens qui réveillent en pleine nuit des enfants palestiniens qui les alignent devant une maison pour les photographier. On est à Hébron en Cisjordanie occupée. Sur ces images publiées par B'Tselem, une ONG dont on parle régulièrement, B'Tselem c'est une ONG israélienne qui s'occupe des violations des droits humains dans les territoires palestiniens et dans les parties occupées par Israël, notamment à Jérusalem aussi. Donc on voit ces soldats d'abord dire aux adultes présents dans la maison d'aller réveiller les enfants, de les sortir. Donc il y a une dizaine d'enfants qui sont regroupés et ils les alignent pour prendre une photo. Et c'est des pitchous, hein, c'est des gamins, enfin il y a un peu tous les âges, mais c'est pas des grands, hein, on n'a pas d'ados là, on a des petits. Ils sont un peu confus, voire effrayés d'être réveillés en pleine nuit, ils comprennent pas bien ce qui leur arrive. Quelques adultes protestent, contre la présence donc de ces militaires qui veulent faire cette photo. Mais bon, devant des militaires armés, ils se calment. Du coup, ils calment aussi les enfants. Il y a un soldat qui va jusqu'à dire aux enfants de faire cheese avant de prendre la photo, en essayant de rendre sympathique quelque chose qui est totalement insupportable. Heureusement, il y a une des mères qui réagit et qui gueule non aux enfants en leur disant de ne pas dire cheese et ne pas sourire sur la photo. Donc voilà. Alors la justification qui apparaît dans la vidéo quand un Palestinien lui demande, c'est que les soldats disent « Ah mais on photographie les enfants parce que ils ont jeté des pierres ». Alors on imagine, hein, jeter des pierres, c'est un acte criminel énorme de la part de petits-enfants. Sont déjà des terroristes pour ces militaires. Alors ça se passe à Hébron, ça montre une fois de plus la vie, la routine horrible hein, que subissent ces Palestiniens vivant sous occupation. Et puis du coup on voit les soldats violer les droits des Palestiniens et des Palestiniennes, puisque suite à la parution de cette vidéo l'armée est obligée de réagir voilà, parce que bon, faire penser que les enfants palestiniens sont déjà des criminels, c'est quand même pas terrible. Donc l'armée essaye de justifier l'injustifiable, bien évidemment, en déclarant que les soldats étaient entrés dans la maison suite à des jets de pierre, alors qu'avait dû avoir lieu dans la journée, contre une implantation juive qui s'appelle Kiryat Arba, une horreur absolue dans cette région occupée, hein, puisque c'est à cause de cette colonie et d'autres implantations juives que les Palestiniens vivent cette situation. Tout ça pour identifier des lanceurs de pierres. Alors l'armée a quand même déclaré que la conduite de l'officier n'était pas appropriée et qu'elle reconnaît un acte illégal. Donc réveiller les enfants pour les faire sortir et les photographier comme ça en pleine nuit, ça reste illégal, ce qui n'a pas empêché l'armée de le faire. Alors bien sûr, l'armée répond en disant que l'officier était réprimandé, donc ils sont allés le voir, ils lui ont dit la prochaine fois fais-toi pas chaud, filmé, je pense, ça a dû être le discours, hein, puisque c'est ça dont il est question. Donc voilà, l'armée dit que des cas similaires ne se reproduiront pas, c'est ça, on va les croire, les Palestiniens sont sauvés. Donc voilà, c'est la vie quotidienne dans Hébron, qui est, je pense, une des villes les plus compliquées hein, pour les Palestiniens. Et quand je dis compliqué, c'est juste que c'est l'horreur absolue à vivre dans Hébron. Alors, on continue dans cette Cisjordanie ou cette Palestine occupée. On va parler un peu maintenant du monde des technologies modernes qui s'invitent dans l'aide à la colonisation, puisqu'on a appris qu'Israël intensifie de manière importante ses efforts de surveillance de la population palestinienne. Ainsi, depuis 2 ans, l'armée photographie les Palestiniens, souvent à leur insu, dans le cadre d'une vaste opération de reconnaissance faciale qui est en train d'être mise en œuvre dans la région. L'information a été dévoilée par le journal américain Le Washington Post. Il y a eu aussi un article, ça a été relayé ensuite par Haaretz, le journal de gauche, un gros journal de gauche israélien. Et ça fait suite en fait à des révélations qu'avaient fait 6 anciens soldats israéliens à l'association, à l'ONG qui s'appelle Breaking the Silence, hein, qui est une ONG israélienne qui voudrait la paix. A priori, c'est pas gagné. Composé essentiellement d'anciens militaires. Hein. Voilà, c'est quelque chose d'assez particulier dans la situation là-bas. Et du coup, c'est une association qui est un peu moins attaquée par le pouvoir israélien puisqu'ils sont un peu embêtés de ces anciens militaires qui veulent la paix. D'après donc le journal de Washington, le Washington Post, le programme de surveillance fonctionne grâce à un logiciel donc pirate hein, qui s'appelle Blue Wolf, le loup bleu, qui permet de prendre en photo via un smartphone les visages des Palestiniens, donc à leur insu, hein, et ensuite ils peuvent constituer des bases de données et comparer la gueule des Palestiniens avec ce qu'ils vont récupérer ailleurs. Donc cette base de données, qui est surnommée par l'une des sources citées par le journal américain, il le surnomme le Facebook secret des Palestiniens, parce que c'est un Facebook, donc ils ont plein d'images, mais les Palestiniens sont pas au courant qu'ils ont leur gueule dedans. Donc voilà, au moins plusieurs milliers de photos d'habitants des territoires occupés, donc de tous les âges. Hein. Du coup, toute personne utilisatrice d'un smartphone qui serait piratée par ce logiciel, enfin Blue Wolf. Hein. Donc l'armée israélienne a aussi installé des caméras de vidéosurveillance capables de reconnaître les visages, donc c'est notamment dans la ville d'Hébron dont on vient de parler. Ça leur permet d'identifier les Palestiniens avant même leur arrivée au checkpoint. Donc des checkpoints, il y en a à l'intérieur de la vieille ville d'Hébron, il y en a partout. Hein, tous les 500 mètres, 300 mètres, vous avez un checkpoint, c'est un truc entièrement fermé avec des grilles et on vous met en joue et vous devez montrer vos papiers pour passer, que vous soyez palestinien ou autre, hein, d'ailleurs ça concerne aussi les touristes, s'il y a des touristes à Hébron, en tout cas les militants et les militantes qui y vont pour constater de la situation catastrophique que peuvent vivre les Palestiniens, c'est la même chose, hein, vous êtes mis en joue de la même manière, vous êtes contrôlé de la même manière. presque de la même manière.
Ouais, presque. Non, c'est quand même un petit peu plus loin.
Ouais, ouais. Il y a des parties de la ville qui sont entièrement interdites aux Palestiniens, alors qu'avec un passeport étranger, on peut aller voir.
Tu peux faire le tour du pâté de maison quand un Palestinien ou une Palestinienne n'a pas le droit.
Donc, en plus de Blue Wolf, là, on a ces caméras à reconnaissance faciale. Donc, un large réseau de caméras qui s'appelle, comme d'habitude, Smart City. Donc là, ils ont mis Hébron devant, Hébron Smart City, donc qui permet en temps réel de surveiller une grande partie de la population palestinienne. C'est révélé, entre autres, par un soldat qui avait parlé donc à Breaking the Silence et à Washington Post. Bien évidemment, la population, avant ces articles, n'était pas informée de ce qui se passait, ni dans leur smartphone, ni dans les caméras de vidéosurveillance. Alors c'est vrai que cette surveillance de la population palestinienne, c'est pas une nouveauté en Cisjordanie. Toutes les populations qui sont occupées par un autre État sont quand même en grande partie surveillées. C'est logique. C'est dans la logique de colonisation. Donc là, Israël, pourtant officiellement, n'autorise pas pour l'instant la reconnaissance faciale dans les caméras des espaces publics. Il y a eu déjà des demandes au sein d'Israël, ça a toujours été refusé. Donc c'est une agence gouvernementale de protection de la vie privée qui donne son avis. A priori, ça s'applique pas aux territoires occupés. C'est toujours une zone grise, une zone de non-droit ou de droits différents. Donc depuis 2019, l'armée israélienne a lancé un gros programme d'installation de caméras avec reconnaissance faciale aux principaux postes de contrôle de la Cisjordanie vers l'entrée d'Israël. Alors, bien évidemment, la justification des militaires, c'est toujours la même. Il faut défendre Israël contre les terroristes et contre le terrorisme. Voilà, le Washington Post précise que ces programmes de vidéosurveillance, qui sont quelquefois quand même encore débattus dans les démocraties occidentales, sont utilisés plus facilement dans les lieux où la population a moins de liberté. C'est le moins qu'on puisse dire, ce qui correspond tout à fait, cette analyse du Washington Post, à la situation d'occupation que vivent les Palestiniens, notamment là à Hébron. Alors plusieurs associations israéliennes de défense des droits humains ont réagi, ont dénoncé de telles pratiques. On a donc forcément Breaking the Silence, et Access Now aussi, qui est une association de défense des droits civiques numériques, qui lutte contre tout l'espionnage qu'on peut avoir, pas que en Palestine, de partout dans le monde. Donc voilà, on a appris que appris ça. On sait qu'Israël est à la pointe dans plein de logiciels d'espionnage. On a Pegasus, je crois que c'était ça, le truc horrible qui a permis notamment au Maroc d'espionner certains dirigeants français. Voilà, c'est Israël est assez fort dans cette guerre numérique, dans cette guerre moderne. Voilà. Alors on continue dans la situation israélo-palestinienne, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Alors on a appris qu'Israël avait classé 6 organisations comme étant des organisations terroristes, alors que ces 6 organisations étaient des ONG. Alors pourquoi ? Parce que c'est des associations qui sont assez efficaces, voire trop efficace, et qui apporte souvent une aide juridique aux Palestiniens, qui documente les violations de droits humains, qui défendent le droit des femmes, qui, alors on ne sait pas pourquoi, aussi participent au travail agricole. Je ne sais pas en quoi ça gêne l'État hébreu, mais ces six structures qu'on qualifierait d'ONG ont été classées dans comme des organisations terroristes par Israël. Donc pour les citer, il y a Adamir, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est une structure qui aide notamment les prisonniers palestiniens. Al-Haq, le centre Bizan, Défense internationale des enfants de Palestine, le réseau Samidoun pour la solidarité avec les prisonniers palestiniens, et le dernier, c'est l'Union des comités de travail agricole. Voilà. Alors, il y a réaction, alors, notamment aux États-Unis, puisqu'une centaine de gros donateurs et de fondations qui donnent à ces ONG palestiniennes ont sorti une lettre ouverte, c'était il y a 2 jours, mardi, exprimant leur solidarité avec les 6 groupes de la société civile, c'est le nom qu'ils utilisent, qui ont donc été placés sur cette liste noire. Donc ça, c'est important, cette réaction. Cette lettre demande donc aux États-Unis, d'ailleurs au gouvernement américain, c'est-à-dire au président américain, à l'Union européenne et à d'autres pays, de faire pression sur Israël pour que Israël retire C'est sinon de cette liste noire qui est la liste des structures soi-disant terroristes. Il y en a peut-être dedans, mais alors pas celle-là en tout cas. Donc la liste des signataires comprend ces grosses fondations, des réseaux de bailleurs qui sont américains, mais pas que, hein, il y a des réseaux européens. Il y a là, par exemple, la Fondation pour la paix au Moyen-Orient, enfin il y a pas mal de choses comme ça. Et il y a aussi une solidarité de la part de pas mal de célébrités d'Hollywood. On a Richard Gere, hein, qui a signé la lettre. On a Ken Loach, on a le groupe Massive Attack, on a pas mal de d'écrivains aussi qui ont réagi, qui se sont solidarisés avec cette lettre pour dire à Israël d'arrêter leur comportement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait des réactions. Le problème, c'est qu'ils se sentent un peu seuls. Alors pas totalement, puisqu'on a le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens, c'est le terme en entier, j'ai pas l'acronyme, qui s'est dit, je cite, alarmé par la décision israélienne. Il y a d'autres ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch qui ont aussi qualifié la décision de épouvantable, injuste, alarmante, et qui menace le travail des ONG palestiniennes. Et puis il y a, on en parlait tout à l'heure, l'ONG israélienne B'Tselem, qui a jugé la décision des autorités israéliennes digne des régimes totalitaires. Donc ça a commencé à bouger, il ne reste plus que les gouvernements à réagir. Pour l'instant, la France, à travers Macron ou le ministre des Affaires étrangères, ferme sa gueule, hein, qui ne dit mot qu'on sent, malheureusement. Le gouvernement américain, Joe Biden et toute la bande, pour l'instant, ils ne sont pas exprimés. On espère que la mobilisation va continuer et permettre donc enfin à ces 6 ONG, 6 structures, de sortir de cette liste noire.
Alors, il faut bien comprendre que si on s'en prend aux organisations qui sur place travaillent sur la notion de la terre, c'est que si Israël implante des colonies, elle veut surtout pas que les Palestiniens et les Palestiniennes puissent s'implanter durablement, si c'est pas déjà fait, dans des territoires grâce à l'agriculture. Donc, elle vise aussi ces organisations qui pourraient soutenir les Palestiniens et les Palestiniennes à recréer une agriculture. Dans un but d'autonomie, mais aussi dans un but de réimplantation dans certains territoires. Et donc ça gêne aussi dans le cadre d'une expansion sur les colonies. Et c'est un vrai problème pour Israël, en tout cas pour ses intégristes.
D'ailleurs, Israël, qui construit en permanence des nouvelles colonies, a aussi construit des nouvelles fermes. Il y a 4 immenses fermes qui ont été construites sur des territoires palestiniens en Cisjordanie, notamment dans la vallée du Jourdain. Et le but, effectivement, c'est aussi de coloniser, de récupérer les terres agricoles. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, la colonisation.
Alors on va parler d'autre chose, on va reparler d'une histoire qui a bouleversé les États-Unis d'Amérique dans les années 60, c'est l'assassinat de Malcolm X, figure de la lutte des droits civiques aux États-Unis, figure
la lutte radicale.
Noire, effectivement, une personnalité radicale. Alors il faut se souvenir que...
Il fallait ça, hein, j'ai l'impression quand même.
C'est toujours pas fini d'ailleurs, il y a aussi aujourd'hui des gens qui sont dans une radicalité parce qu'elle est toujours nécessaire malheureusement. Malheureusement, puisque le 21 février 1965 à Harlem, Malcolm X est abattu. Il faut se souvenir qu'il était donc à Nation of Islam, qu'il a quitté Nation of Islam, et en 65, un an après avoir quitté cette organisation, il est donc assassiné. 3 hommes sont arrêtés et seront reconnus coupables de meurtre en 66, condamnés à la prison à vie. 2 hommes sont aujourd'hui concernés par une nouvelle histoire. Alors, il s'agissait de... je vais donner leur nom que ces hommes ont choisi, et non pas...
Leur nom de combattant, quoi.
Ouais, exactement. Et puis d'hommes aussi de foi, hein, entre autres. Mohamed Aziz, qui a 83 ans, qui est sorti de prison en 85. Khalil Islam, qui est sorti en 87 de prison. Il est décédé en 2009. Et Mohamed Abdul Halim, qui est le seul des 3 à avoir déclaré être coupable de l'assassinat de Malcolm X. Il faut savoir que Mohamed Aziz a toujours déclaré être innocent, il s'est battu pendant son procès, il s'est toujours battu quand il était en prison, il a continué à se battre pour dire qu'il était innocent. Et Mohamed Aziz et Khalil Islam sont aujourd'hui au centre de quelque chose qui pourrait être historique, c'est que le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, et The Innocent Project, une organisation qui luttent contre les erreurs judiciaires vont déposer un dossier conjoint pour obtenir l'annulation de leur condamnation. Donc ça va être déposé devant la Cour suprême de New York.
Donc ils peuvent être innocentés.
Oui.
Des années après.
Oui, tout à fait. Alors... Il faut se souvenir qu'on est dans une période où il y a eu d'autres procès d'activistes noirs, blancs. Des activistes ont été arrêtés dans le cadre de manifestations sur les droits civiques, sur les droits humains. Il faut se rappeler qu'il y avait la guerre du Vietnam et qu'il y a des choses aussi qui ont eu lieu dans pas mal de villes avec des manifestations et ont eu lieu aux États-Unis d'Amérique des procès qui souvent n'ont été qu'une farce. On a accusé les gens de tas de choses. Avec du rien, des procès où on a vu des juges n'être là que pour blâmer des hommes et des femmes, sans même savoir à chercher s'il y avait des preuves, et puis des questions sur l'implication de la police et des diverses polices dans le cadre de ces différentes manifestations, et en particulier dans ces manifestations pour les droits civiques aux États-Unis d'Amérique pendant ces années 60. Et c'est bien ça le cœur aujourd'hui de ce dossier déposé conjointement, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Alors il faut savoir que ce qui a amené aussi ce mouvement, c'est la diffusion sur Netflix en février 2020 d'un documentaire Who Killed Malcolm X, qui a tué Malcolm X donc, et qui a fait se demander au procureur de Manhattan un tas de petites choses, qui a fait réouvrir le dossier. La famille de Malcolm X a demandé à réouvrir ce dossier. Et puis en février 2021, il y a un policier qui a laissé une lettre posthume et qui accuse sa propre carrière, enfin en tout cas ses propres polices, d'avoir commis des actes impardonnables. Alors, ce qui ressort de ce dossier qui est déposé, c'est que l'enquête de 22 mois a été conduite donc par le bureau du procureur, les avocats des deux hommes, et ça a révélé, cette enquête de 22 mois, que le FBI... qui est accusé dans beaucoup de ces procès d'activistes sur ces années 60, et la police de New York ont dissimulé des preuves. Que si elles avaient été connues, ça aurait conduit très probablement, et le très probablement est extrêmement important, dans l'acquittement des deux hommes.
Alors, on sait qu'ils ont même des fois fabriqué des preuves.
Et la question, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'il y a des enseignements dans ces documents qui sont au cœur de ce dossier, qui montrent que le FBI a infiltré les groupes, infiltrer les salles au moment de, et en particulier ce jour-là à Harlem, au moment de la fusillade, et que on aimerait bien savoir ce qu'il fait. Parce que Mouajid Abdoud Halim a toujours dit que les deux comparses avec qui il est passé en procès en 66, c'était pas eux.
Ouais. Lui, par contre, il a assumé.
Juste en 77, il a refait encore sous serment pour dire que ce n'était pas eux. Et en fait, il y a un tas de documents qui aujourd'hui pourraient enfin peut-être disculper deux hommes devant la Cour suprême. C'est pas rien.
Oui, même quand si même. C'est trop tard, c'est
même
mieux,
si c'est trop tard. Ah bah, c'est trop tard.
Symboliquement, c'est important. Surtout, par contre, leur vie, elle a été pourrie.
Mais c'est surtout important aussi parce que là, on est sur l'histoire, avec un H majuscule, des États-Unis d'Amérique, sur aussi l'assassinat d'un homme. Et que, est-ce que ça va permettre pour autant de connaître la vérité? C'est pas forcément ça qui est au cœur du dossier. Par contre, de pouvoir identifier deux hommes
même
et deux activistes,
pour un,
c'est aussi important.
Très bien, c'est à moi ?
Oui, je t'en prie.
On va faire un ni Dieu ni maître. Maintenant, avec alors une ingérence énorme et insupportable de la part des États-Unis d'Amérique. Alors, c'est pas la première fois non plus. Alors, on va parler d'une affaire qui a lieu en Finlande autour d'un évêque qui est rédacteur en chef d'un site affilié à la mission évangélique luthérienne de Finlande. C'est le révérend Juhana Pohjola. Donc, il fait l'objet de poursuites judiciaires par la Finlande depuis le mois d'avril. Il est attaqué pour la publication d'une brochure sur l'homosexualité qui était présente sur le site depuis 2004, qui présente la vision de la Bible de l'homosexualité. C'est pas glorieux. Ça, forcément, dans la Bible, c'est pas glorieux. Donc, ça s'appelle « Hommes et femmes, qui l'a créé ? Relations homosexuelles, défier la conception chrétienne de l'humain. » La conception chrétienne de l'humanité. Voilà. Alors, c'est en fait c'est pas lui qui a écrit le pamphlet, le truc homophobe, c'est Päivi Räsänen, c'est une femme, une élue politique des chrétiens démocrates, qui est l'auteur donc de cette brochure, que lui a mis en avant sur son site de la mission évangélique luthérienne de Finlande. Donc, Là, il est accusé depuis le mois d'avril. Il essaye de se défendre, donc il dit, je cite, défend des croyants et des irrationnels habituels. Il dit, les gens libres ne devraient pas avoir à violer et à abjurer leurs convictions les plus profondes pour continuer à faire partie d'une société libre. Donc être homophobe, c'est une conviction les plus profondes. La vraie liberté religieuse protège à la fois le droit d'un individu d'avoir des croyances impopulaires face au vent culturel dominant du monde. Hein, le vent culturel dominant du monde. Vous savez, vouloir les droits pour les LGBT, tout ça. Là. Bref, il sort des tissus d'infamie, d'horreur. Voilà. Alors tous les deux, ils encourent, donc l'évêque et la parlementaire, ils encourent des amendes et jusqu'à 2 ans de prison. C'est sur une loi qui s'appelle les crimes haineux. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait au moment où il publie le truc, au moment où elle écrit son truc homophobe et lui au moment où il le publie, la loi n'existe pas. Donc ils vont faire ça et la loi va arriver plus tard et ce qu'ils ont fait devient illégal. Hein, parce qu'ils attaquent un groupe particulier de personnes et que cette loi protège contre les crimes haineux. En fait, c'est une loi contre les crimes haineux. L'homophobie fait partie des crimes haineux. Donc, on en était là de l'affaire, c'était au mois d'avril. Et puis là, l'évêque, il a l'occasion de rencontrer un truc qui s'appelle l'ADF. Alors, j'ai fait l'acronyme français, mais ça, en fait, en anglais, c'est l'Alliance Defending Freedom. En fait, c'est un lobby religieux de défense des religions contre tout ce qui peut attaquer les religions, contre la libre pensée, contre le rationalisme, contre les athées, contre toutes les mesures des États qui peuvent aller à l'encontre des religions. Des religions générales, hein, pour le coup, ils sont un peu omnubilés par le christianisme, hein, parce que c'est leur cœur de cible, mais grosso modo, ils défendent aussi d'autres religions. Hein. Et donc, ce lobby, l'ADF, là, est au courant de l'affaire, et du coup, ils ont des copains parlementaires aux États-Unis d'Amérique, et du coup le département d'État des États-Unis d'Amérique a demandé à ce que la Finlande soit inscrite sur la liste de surveillance des pays qui briment la liberté religieuse. C'est énorme, c'est juste exceptionnel, c'est juste incroyable, c'est juste indéfendable, c'est juste horrible. Tout ça pour, je cite, d'après eux, pouvoir criminaliser les croyances chrétiennes. Donc effectivement, dire que un couple c'est que un homme et une femme, que l'homosexualité c'est pas bien, c'est un crime, tout ça, c'est une croyance chrétienne et on doit le protéger. Et ben voilà, ça fait rêver les religions, chaque fois, ça fait toujours rêver, que ça soit les religions ou leur lobby. Donc là, c'est un énorme lobby. Donc il y a 6 représentants élus américains là qui sont mobilisés, qui ont fait une lettre pour essayer de faire pression. Bref, les États-Unis d'Amérique non seulement continuent de promouvoir les religions à travers leurs élus, mais en tant que maître du monde, enfin ce qu'ils croient, essayent de faire pression sur les États pour laisser les homophobes s'exprimer. Quelque part, c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire la vision chrétienne des relations entre deux personnes. Voilà, j'ai trouvé ça atroce. Et la petite info de Lyon, le père Prena est en tôle. Vous savez, ce criminel qui a été condamné à 5 ans de prison, c'est pas beaucoup, me direz-vous, pour des actes de pédocriminalité dans le diocèse de Lyon entre 1971 et 1991, tout en étant bien évidemment protégé par les instances, notamment l'église catholique lyonnaise. Alors en fait, il a été condamné en 2020, mais il n'avait pas été encore en prison parce qu'il avait des problèmes de santé, donc il était, pour l'instant, il vivait chez sa sœur. Et ça y est, ça doit aller mieux. Donc maintenant, ils l'ont récupéré et il est en tôle. Je ne vais pas défendre la prison, mais je suis bien content que ce genre de criminel arrête ses crimes, et que peut-être que le meilleur moyen, c'est qu'il arrête d'approcher les enfants. On rappelle que l'Église catholique a abrité et protégé 3000 criminels ces 50 dernières années, que l'Église catholique n'a toujours pas été ni condamnée, ni interdite pour la protection de ces 3000 criminels.
Alors les fêtes de Noël approchent, et il va falloir
dans la religion, ça y est.
Tu me laisses finir,
ouais. Un peu plus.
Pardon, alors, donc les fêtes de Noël approchent, que vous...
Je peux t'embêter? Non, vas-y.
Alors, je vais me lever de ma chaise et te faire taire.
Tac, elle m'a mis un coup. Wow. J'arrête.
Non, c'est pas vrai. Après, ils vont nous croire. Et, voilà. Alors, donc, Noël approche et que vous soyez religieux ou païen et païenne, il va falloir quand même trouver des discussions pour faire taire tonton Eiffen et cousin le libéral qui pense que Xavier Bertrand va faire un super bon président.
Et puis, y a, en plus, ça va parler du Covid. Alors, il y a plein de sujets, ça va être chaud.
Mais moi, je pense que bon, les présidentielles, quand même, ça amène toujours du bon vieux débat bien intéressant. Alors, Xavier Bertrand, va-t-il être un bon candidat? En tout cas, Xavier, il a plein d'idées, dont une idée pas très nouvelle, surtout pour la droite. C'est qu'il va falloir baisser le coût du travail. Pas nouveau. Alors, évidemment, quand on parle de coût du travail, on parle de baisse des charges. Vous savez, ces charges que tout le monde nous dit. Alors, évidemment, comptablement, c'est des charges, mais en fait, en vrai, ça s'appelle des cotisations que nous payons quand nous sommes donc travailleurs et travailleuses et que l'entreprise paye par ailleurs.
On appelle aussi le salaire indirect.
Alors, donc, on a cette baisse des charges voulue par Xavier. Parce que Xavier, il a une super idée. Il faudrait que, en fait, ton net, ce soit ton brut. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on te donne en brut, eh ben, ça soit en fait ça ton aide, parce qu'il te faut du pouvoir d'achat, vois-tu. Donc, on va enlever les charges. Alors, bon, le problème d'enlever les charges, c'est que ça pose quand même quelques problèmes.
Bah, non.
À court et à long terme.
Non, moi, je pense pas.
Alors, si, parce que cousin libéral, lui, évidemment, comme il est auto-entrepreneur, il trouve que ça commence à le faire chier de payer autant l'URSSAF. Excusez-moi, mais en vérité, hein, c'est ça qui l'emmerde quand même, hein, cousin libéral. Et puis que quand même, toutes ces taxes qu'on lui prend, là, hein, c'est quand même, oui, c'est de la merde.
Alors, cousin libéral, il cotisera plus à la Sécu.
Et il va rien faire.
Alors, donc, il sera obligé de prendre une police privée.
Alors, voilà, le problème, on sait comment ça se passe, c'est que on crée des déficits, hein, donc, puisque bah, y a un moment, les sécu, il n'y a plus d'argent qui va y rentrer. Il va bien falloir faire quelque chose. Ou alors, ça veut dire qu'on va aller le prendre sur nos impôts, autrement. Mais il va bien falloir trouver une solution. On sait que, je vous rappelle, alors, je fais une petite parenthèse là, c'est important de savoir ce qui est écrit sur votre fiche de paye. Non, sérieusement, apprenez à lire vos fiches de paye, elles ont été simplifiées. C'est pas une meilleure, c'est pas mieux. Moi,
pas pour tous.
Ouais, mais il y a eu une simplification, on était censé mieux les comprendre. Je suis pas sûre que ça soit tellement mieux, la simplification, parfois. En tout cas, quand elles sont bien faites et que vous avez un bas salaire, vous savez qu'il y a un endroit, il y a une petite case qui vous dit les réductions qui sont déjà accordées à votre employeur, votre patron, votre patronne, sur votre salaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des cotisations, des exonérations, des réductions qui sont déjà accordées. Hein. Oulala, emballons-nous pas. Xavier, il le sait, hein. Il le sait tout ça. Mais voilà, c'est important de savoir lire sa fiche de paye. Parce que donc, vous savez que vous avez, votre patron, il donne beaucoup de sous à l'URSSAF. Ça permet de payer les retraites. Vous avez une petite ligne, hein, retraite. Mais vous savez aussi que vous avez peut-être aujourd'hui la complémentaire obligatoire, la complémentaire santé. Mais vous avez peut-être aussi des choses qui sont obligatoires, comme la prévoyance. Parce que tout ça, c'est prévu aussi, hein, les prévoyances obligatoires. Donc, les conventions collectives. Donc, Xavier, moi, je veux bien qu'il fasse le ménage. Mais il va falloir quand même qu'il ça soit sur toutes les conventions collectives et pas juste sur le code du travail. Mais bon, encore ça peut se discuter. Mais donc ça veut dire que on met plus d'argent donc dans la Sécu, je fais simple, hein, on va être un peu rapide, hein, y a plus d'argent pour les retraites. Et donc qu'est-ce que ça nous amène nous à faire d'une manière globale? Bah on met un peu de côté quand même. Enfin, je veux dire, il y a un moment, quand on te dit qu'il va falloir que tu payes toi tes soins, que tu payes ta retraite, parce que ta retraite là c'est quand même le gros souci quand même d'un certain nombre, pour un certain nombre d'entre nous, quoi. C'est déjà un, à quel âge on va pouvoir se mettre en retraite, et qu'est-ce qu'on va avoir comme pognon au final, parce que c'est quand même une double problématique, hein. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre de côté, donc du coup tu vas pas acheter des trucs qui servent à rien, mais il n'empêche que les trucs qui servent à rien que t'achètes, bah, c'est ce qui fait aussi fonctionner l'économie libérale, ouais, hein. Faut, je veux dire, bon, et puis le problème c'est que bah, comment on va financer aussi le chômage? Voilà. Donc, en tout cas, comme tu le disais, ça veut dire que tu vas te payer des complémentaires santé privées, ben pour pouvoir.
En tant que bon libéral, moi aussi j'ai un cousin libéral. Il m'a expliqué, on paye plus de charges, les entreprises payent plus de charges, mais après, eh ben il y a plus de sécu et c'est toutes des assurances privées qui vont remplacer. Et tu seras bien plus heureux. Ça te coûtera bien plus cher, mais il paraît que tu seras bien plus heureux parce que ton net et ton brut, ça sera le même.
Donc en fait, ton pouvoir d'achat, il va être tout pourri. Ouais, autant vous pire. Le dire tout de suite, c'est mal barré. Parce que le but quand même, là, je veux dire, c'est pas Sarkozy, hein, monsieur Sarkozy, hein, a beaucoup œuvré dans la destruction de notre solidarité nationale sur ces questions du chômage, de la sécu et de la retraite. Ça sera pas le, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier. Et donc, on continue dans cette lancée, mais on sait très bien que c'est une fausse proposition, que malheureusement, nous allons perdre du pouvoir d'achat. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui a longtemps que je n'ai pas parlé de lui, qui a toujours des bien bonnes idées. Il était mardi sur Europe 1. Et donc il est allé parler plein de choses, hein, que oulala, comme toujours, hein, que c'est les autres, les fournisseurs qui sont les méchants, qu'il y a eu de l'inflation et que c'est pas de sa faute. Mais lui, il est allé parler revalorisation générale des salaires, puisqu'il explique le travail ne paie pas assez. Il y a peu d'espoir de s'acheter une maison par son travail. Depuis 5 ou 6 ans, le revenu du travail ne permet pas à un jeune couple d'acheter un appartement. Donc il est aussi pour la baisse des cotisations sociales. Ah, il trouve que c'est, je le cite, c'est une piste à creuser. Lui, c'est la piste à creuser.
Je crois qu'il veut augmenter le salaire de ses salariés, moi.
Alors, lui, il dit que quand même... alors, on rappelle que Leclerc, c'est pas...
C'est pas lui directement.
C'est pas lui directement. Donc déjà, il nous fait bien marrer avec toutes ses grandes propositions parce qu'il n'est pas toujours suivi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il dit, moi, il y a du 13e mois. Oui, bah, c'est pas le seul. Enfin, je veux dire... qu'est-ce que tu crois? Mais je vais dire quoi? C'est pas un 13e mois qu'il nous faut, c'est des vrais salaires. Et puis, bah, alors, regarde, donne-moi des 13e mois, si tu veux. Mais, ouais. Déjà, donne-moi du vrai salaire. Mais c'est vrai qu'il dit... Donc c'est la piste à creuser, c'est pas une piste, veuillez m'excuser, c'est important, la piste à creuser. C'est incroyable que l'on fasse payer les charges qui vont couvrir le chômage avec le salaire des gens qui ne savent pas comment va évoluer leur travail. Il faut que les entreprises puissent augmenter les salaires sans avoir à se préoccuper du financement de la sécurité sociale. Lui, ce qu'il veut, globalement, c'est décorréler les charges du salaire. Donc, les charges, ces fameuses charges, ces cotisations, il va bien falloir les prendre quelque part si on en croit quand même Michel-Édouard Leclerc qui nous dit qu'il faudrait que ce soit plus sur le salaire. Il est d'accord avec Xavier, hein? Hop, Michel-Édouard, bah, pas vraiment, mais en tout cas ils sont d'accord parce que c'est des libéraux et des capitalistes. Et dans les deux cas, donc, on va sortir les cotisations du salaire, mais on va les prendre nous. Sur nos impôts, on a une partie de la population qui, soit parce qu'elle n'est pas assez payée, soit par le jeu du foyer fiscal, de plein de choses, ne paye pas d'impôts. Donc on va aller le prendre, nous, le pognon.
Puis les impôts, ils ont énormément baissé.
Chez les riches, on est d'accord. Ouais. Mais ça ne va peut-être pas suffire parce que ce n'est pas non plus dans ce cadre-là qu'on est dans une solidarité nationale, et c'est quand même le but. Donc évidemment.
Ils ne vont pas taxer les riches.
Ah non, et ben c'est bien ça le problème. Donc. Avec leur histoire, quand même, on tourne un peu en rond, mais on a bien compris que quand même le problème, c'est les charges. Moi, j'ai retenu ça. Donc, je vous laisse expliquer à Cousin Libéral à Noël, ou avant d'ailleurs, si vous le croisez, que en fait, c'est un plan pourri qui s'annonce à lui. Il va avoir du mal à vous croire, hein, Cousin Libéral, mais on va devoir continuer à trouver tout un tas d'explications. Si vous voulez, vous sortez le tableau blanc, comme moi je fais, et puis vous faites des petits schémas avec des petits camemberts, et puis une fois qu'il n'y aura plus de camemberts, ben, il verra bien qu'il serait bien obligé de peser un peu des cotisations.
D'accord. T'es un cousin libéral, alors, comme moi.
Ben, non.
On a tout autour du monde.
Ben, en fait, je sais pas, mais on a tous des gens libéraux autour de nous, que ce soit à la famille ou au travail, parce que même au travail, les salariés ont quand même du mal à entendre que c'est pas en baissant leurs cotisations que ça va aller mieux.
Non.
Alors je voulais juste te dire que d'ailleurs le Sénat a retoqué l'indemnité inflation. Vous savez ces 100 balles qu'on promet là au mois de décembre.
Mais non, t'y avais droit toi.
Alors, la question, c'est que, alors, selon qui vous êtes et à quel moment, si vous êtes salarié, fonctionnaire ou indépendant, ça va être échelonné dans le temps pour que ça vous soit versé. 100 balles, si t'es très pauvre, ça va changer ta vie. Si t'es moyennement salarié, comme finalement la France l'est quand même assez globalement, en fait, ça va juste coûter beaucoup d'argent à la collectivité.
Pour pas grand chose.
À la rigueur, j'irai t'acheter un bon vin, hein, voilà. Faire un beau cadeau à tes gamins, ça c'est chouette. Mais en fait, à part, on aurait mieux fait finalement de donner plus d'argent aux plus pauvres.
Ouais, c'est ça en fait.
Quitte à faire ça, enfin je sais pas.
Et laisser les classes moyennes galérer un petit peu, mais l'important c'est en
dessous. Ouais, mais c'est voilà une mesure populiste juste avant les élections. Mais en tout cas, le Sénat a rétoqué l'affaire. Alors, il faut dire que c'est à la droite de l'opposition à Macron.
Ouais, mais
c'est pas la même droite.
Voilà. À la deuxième lecture à l'Assemblée, ça va repasser.
Ça va évidemment repasser. On vous rappelle qu'on a nos deux chambres entre l'Assemblée et le Parlement qui font des
ping bim bang ping
pong ping pong pong. Voilà. Donc, évidemment, ça agace un peu du côté de Gabriel Attal et tout ça, hein, de La République En Marche, qui trouve que quand même, c'est pas super sympa. Nous, on a des vachements idées. Donc, en tout cas, ça s'est fait la nuit. Au Sénat, l'air de dire, bah en fait, on va quand même vous enlever le truc parce que a raison. Peut-être, parfois, on trouve que c'est pas bien. Mais en même temps, comme ils ont fait ça la nuit, pour que ça soit pas trop médiatisé, pour qu'on aille quand même, peut-être, quand même voter pour une partie de cette droite, qui enlève quand même 100 balles de notre bouche, hein, voilà. Ça va être versé quand même à 38 millions de Français et de Françaises. J'ai oublié qu'il y avait les retraités, hein, puis les chômeurs, les allocataires aussi, les étudiants. Enfin, ça fait beaucoup de gens. Qui vont toucher 38 millions, je le disais, et peut-être parfois deux fois, parce que le système, moi j'ai été lire les textes, hein, le système d'application pour l'instant de cette chose, je vous dis, ça va être marrant, parce que pour les salariés, ça va passer par la feuille de paye, hein, et puis en plus, après, le patron, il va devoir se faire rembourser. Alors pour l'instant, on parle d'exonération à venir sur les prochaines cotisations donc versées par l'entreprise. Ça va être encore un micmac, à mon avis, absolument joyeux à gérer. Et puis surtout, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont être les bienheureux, bienfaiteurs, peut-être pour trouver parfois pour Noël deux fois 100 euros. Mais on nous promet des situations pour que ça n'arrive pas, qu'il n'y ait pas des profiteurs et des profiteuses. Sauf que le système est vraiment pourri dans sa mise en place. On attend, comme d'habitude, avec les grandes idées du gouvernement, les décrets d'application et puis toutes les petites feuilles de route pour que tout ça puisse être fait aisément, ce qui n'est pas gagné, en tout cas du côté de cette droite qui n'est pas la même que celle de M. Macron, on estime qu'il aurait fallu un dispositif mieux ciblé et qu'il y ait moins de Français qui le reçoivent. Que c'est une mesure massive qui globalement ne va servir à rien et qui est surtout une mesure
électoraliste.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. À gauche, on s'est abstenu parce qu'à gauche, on n'aime bien pas trop avoir d'idées. Surtout en période électorale. Ouais. Faudrait pas non plus gêner quand même petit peu, hein, dans les idées.
Ils sont minoritaires, donc ça sert à rien de
faire. Ouais, mais justement, du coup, autant y aller franco. Enfin, voilà.
Alors, c'est à moi ?
Ouais.
Ben, on reste dans les trucs franco-français. Avec un petit mot sur le nucléaire. Parce que j'aime bien le nucléaire, moi. Hein. Et c'est la Cour des comptes qui doute. Imagine, Macron est allé de son grand discours, on va relancer des réacteurs nucléaires, on va reconstruire des réacteurs nucléaires, on pense tous à des nouveaux EPR. Et la Cour des comptes, c'était aujourd'hui, hein, elle a dit qu'elle avait des incertitudes qui, pour elle, pesaient sur la capacité à construire un nouveau parc nucléaire dans les délais et des coûts raisonnables. Parce que eux, ils savent compter, eux, ça rigole pas à la Cour des comptes, hein. C'est pas un rigolo qui se présente à la présidentielle et qui fait des promesses à tour de bras, hein. Eux, ils ont des tableaux avec 5000 lignes de chiffres et ils t'expliquent tout en détail. Donc eux, ils expliquent, hein, la construction de nouveaux moyens de production électrique, qu'ils soient nucléaires ou renouvelables, d'ailleurs ils disent, hein, au global, ça appelle des décisions urgentes pour garantir l'approvisionnement à l'horizon de la décennie 2040. Mais des décisions intelligentes, il laisse entendre ça. Hein, on rappelle que Macron s'est appuyé entre autres sur une partie du rapport du réseau RTE, hein, qui a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas été très clean ce rapport. Donc quand il a annoncé le 9 novembre là la relance du réacteur du programme nucléaire, alors on n'a pas bien compris, on ne sait pas ce qu'ils vont relancer exactement. On sait que EDF avait déjà fait une proposition à l'État de construire 6 nouveaux EPR. Hein, il y en aurait peut-être un juste à côté de chez nous, là au Bugey, il y avait un projet d'EPR à un moment au Bugey, pour un coût estimé à 46 milliards d'euros. Alors là le coût d'EDF, c'est pas la Cour des comptes EDF, hein. Et EDF, ils savent pas compter. Ils avaient annoncé que le EPR de Flamanville coûterait 3 milliards. La Cour des comptes, elle dit que ça va coûter 19 milliards. Hein. Donc EDF et les chiffres, c'est tout sauf fiable. Donc voilà, on en est là. Et le problème, c'est qu'EDF, aujourd'hui, et c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est où ils vont trouver l'argent. EDF est lourdement endetté. Ça, c'est une aberration. Puisque sa dette s'élève à la fin de l'année 2020, donc l'année dernière, à 42,3 milliards d'euros. Imaginez. Or, l'entreprise était censée, c'était obligé, mettre de côté l'argent du démantèlement de toutes les centrales nucléaires. C'est à peu près, pour l'instant, estimé aux alentours de 1 milliard par centrale. On a une cinquantaine de centrales. EDF devrait avoir 50 milliards d'argent en stock pour démanteler les centrales. Même s'ils gagnent encore 5 ou 10 ans, dans 10 ans, il faudra les démanteler, les centrales. Et ils ne les ont pas. Ils sont même à moins 40. Ça veut dire qu'en grosso modo, aujourd'hui, EDF, il leur manque 90 milliards d'euros. Alors de là à trouver 46 milliards, ça veut dire qu'ils vont emprunter encore 46 milliards. On sent, et c'est ce que dit en fait le rapport de la Cour des comptes, il laisse entendre que ben ça va pas se passer, c'est pas possible. En fait, EDF a pas les moyens. Et il dit, il laisse entendre, il va se passer quelque chose, c'est l'État va intervenir. Et comme d'habitude, l'État va venir pour nationaliser les dettes de cette entreprise qui est EDF. Hein, le nucléaire va nous coûter, grosso modo, 90 milliards de plus. Et l'État va injecter, emprunter et injecter de l'argent dans EDF. On sait qu'EDF est au bord du bilan, hein, 43 milliards de dettes. Il suffit qu'ils aient le moins un incident sérieux quelque part. Je parle même pas d'un accident nucléaire, mais un incident sérieux pour qu'ils soient vraiment embêtés. On rappelle d'ailleurs qu'EDF, c'est la seule entreprise du secteur de production d'énergie électrique qui est dispensée d'assurance. Hein, parce que si ça pète, c'est vous et moi qui allons payer, c'est pas les assurances. Donc voilà, donc ils ont déjà des avantages et ils sont quand même à 42 milliards de dettes, comme quoi ça a été géré n'importe comment. Et donc la Cour des comptes s'inquiète en disant, bah, à mon avis, relancer le nucléaire, il faut peut-être quand même être un peu intelligent, réaliste et se poser des questions sur le coût. Et ils n'ont pas tort du tout.
Alors, je suis tombée sur un communiqué qui date du 10 novembre 2021, écrit par une organisation, ma foi, exceptionnelle, une association qui s'appelle Voix du Nucléaire. Alors, c'est une association, je cite, citoyenne de bénévoles indépendantes de toute attache économique, institutionnelle, syndicale ou politique. Cette petite phrase a son importance, nous allons y revenir tout de suite. Il me reste quelques minutes pour faire ce sujet, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, ce communiqué nous dit quoi ? Communiqué de l'association Les Voix du Nucléaire à la suite de l'agression subie par ses membres lors de la marche pour le climat à Paris le samedi 6 novembre 2021.
Ils ont été agressés ?
Ouais, alors en fait j'ai appris grâce à ce communiqué qu'en fait les membres de Voix du Nucléaire qui font, ils font des trucs dans la rue avec leurs petits panneaux vive le nucléaire, enfin c'est pas exactement ça mais c'est vachement bien, tout ça. En fait ils se sont fait emmerder en Belgique, en Allemagne, en Hollande comme ils disent, donc aux Pays-Bas. Donc,
c'est cool quand même.
Ce samedi 6 novembre 2021, des adhérents de l'association Les Voix du Nucléaire ont été agressés lors de la participation à la marche pour le climat organisée à Paris en marge de la COP26 de Glasgow. Cette agression à la dernière d'une série d'événements du même ordre qui vise en France et en Europe à empêcher mais aussi à décrédibiliser une parole citoyenne favorable à l'énergie nucléaire dans un contexte de transition énergétique. Loin d'être un acte isolé, cette agression traduit une dérive antidémocratique d'autant plus regrettable qu'elle se fait en pleine urgence climatique. Alors, j'ai donc appris que l'agression, pancarte déchirée, bousculade, insulte, dégradation de leur effet personnel. Non, mais je dis pas que c'est bien, hein, mais voilà, c'est une réalité. Hein. Intimidation, demande de quitter le cortège. Bah ouais, mais ça, par contre, excuse-moi, mais casse-toi, quoi. Bah avec oui, ton nucléaire.
Non, mais c'est ça, ils ont pas leur place, donc.
Eh ben, en tout cas, il y a des gens qui leur ont dit que non, ils avaient rien à faire là. Oui. Alors, donc, on apprend aussi dans ce communiqué que qu'est-ce qui leur a été reproché, hein, c'est pour ça qu'ils se sont fait virer. Rappeler que le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée de France, qui en fait le seul pays du G20 au secteur électrique déjà aligné avec les accords de Paris. Ces citoyens, vous remarquerez qu'il y a des mecs, hein. Ces citoyens ont voulu rappeler que cette technologie est une solution importante de la lutte contre le changement climatique. Parce que, en plus de ça, c'est des militants politiques manifestant non seulement pour l'urgence climatique, mais aussi pour une plus grande expression démocratique participative. Alors moi, j'ai un super autocollant de la CNT que j'aime beaucoup, qui se dit société nucléaire.
Société totalitaire.
Ouais.
Parce qu'il parle de démocratie, et il n'y a jamais eu le moindre vote des populations pour choisir de basculer dans le nucléaire. On a basculé avec les premiers, les graphites gaz, hein. Je rappelle, il y en a 6 réacteurs qui ont été arrêtés il y a plus de 25 ans, qui n'ont jamais été démantelés parce qu'EDF, je sais pas faire. Le but, c'était pas de faire l'électricité, hein, c'était de faire du plutonium pour les bombes, hein. Et après, on s'est servi de l'outil. Il n'y a jamais eu le moindre vote là-dessus.
Alors, dans ce communiqué, on a donc le mot de la présidente Myrto Tripathi, dont nous allons pouvoir reparler, qui nous dit l'action raisonnable, concertée et appuyée sur les faits scientifiques devrait primer sur toute autre considération idéologique ou personnelle dans l'intérêt commun. Elle me fait marrer, Myrto. En tout cas, bon, ça c'était donc pour le communiqué, parce que à Noël, vous allez aussi avoir Tata climato-sceptique. Donc il va falloir aussi trouver des sujets sur le climat et donc peut-être parler du nucléaire et en tout cas des luttes anti-nucléaires qui existent. Alors, c'est vrai que je suis, en cherchant un petit peu des infos, retombée sur cet article du Figaro écrit par Charles Jégu le 29 janvier 2021. Publié à 15h16, qui est titré « Ces égéries écolos qui font la promotion de l'énergie nucléaire ». C'est toute une joie et un ode au nucléaire quand même. Donc il nous rappelle que au Royaume-Uni, il y a Zion Lake, qui est une ancienne porte-parole de Extinction Rebellion. Elle a pris sa veste, elle l'a retournée et maintenant elle est pro-nucléaire.
Super.
Et bah, ouais, c'est vrai qu'en France, on a, comme le dit très bien Charles Aigu, Valérie Faudon, excusez-moi, qui incarne avec talent la face institutionnelle de ce combat. Mais il est vrai que la nouvelle égérie atomique française, le Figaro l'écrit comme ça,
c'est qui,
quand même, c'est donc Myrto Tripathi. Elle a été conseillère de Brice Lalonde, ça en dit long, directrice politique de climat au sein du Global Compact France, et surtout elle a fait toute sa carrière, enfin une belle carrière de 10 ans quand même, toute une décennie, 2004-2014 chez Areva.
Ah bah oui, ouais, voilà.
Elle a été directrice de l'offre en charge des appels d'offres du réacteur nucléaire EPR vers les marchés export. Ah non, mais en plus, c'est pas n'importe quoi.
En plus, elle a bossé sur le truc qui coûte
et
trop cher.
Elle a écrit un bouquin qui s'appelle La bataille pour le climat. Alors donc, elle a monté ce truc, La voix du nucléaire, parce que quand même, elle en peut plus. Et alors, je suis tombée sur une magnifique... Franchement, c'est à lire. Pour tata climato-sceptique, prenez le temps, c'est long, hein, mais comme quoi on peut trouver des articles avec des gens dedans qu'on n'aime pas, mais long. C'est l'expansion, l'Express, on ne sait plus bien ce que c'est, hein, comme ouais, journal ouais. À force. Ça date de octobre 2020, ça a été écrit par Lucas Medievilla, et c'est une interview qui mêle donc Zion Light et notre fameuse...
T'as perdu son
Myrto Tripathi, hein, qui est toute magnifique, parce que Zurla est quand même, hein, elle explique, lorsque vous êtes impliqué dans l'écologie, vous êtes anti-nucléaire par principe. Vous ne questionnez pas cette position, vous vous contentez de vivre avec. J'étais jeune et je croyais également sans vérifier ce que les gens autour de moi disaient à propos des radiations et des déchets nucléaires. Plus tard, en me documentant sur ce sujet, j'ai appris que ces choses étaient en réalité fausses et j'ai découvert également que les gens avec qui j'avais fait campagne ne voulaient pas entendre la vérité. Bon, on sait pas ce qu'elle pense des déchets, ce qu'elle en a fait.
Du coup, elle veut les prendre dans son appartement.
Bah, je sais pas, dans son salon, plein, sous son canapé. Ouais. Mais en tout cas, elle a appris la vérité. J'ai pas réussi à savoir exactement quelle vérité. Mais ce qui est marrant, c'est que plus tard, Myrto, elle nous explique, mais bah, en fait, les déchets, toute l'industrie, elle en produit. Donc le nucléaire, c'est pas différent. Je vous la fais courte, mais globalement,
ouais,
c'est ce qu'elle explique pareil, hein. Quand même, hein, dans cette interview. En tout cas, moi, ce que j'ai aussi remarqué dans le Voix du nucléaire, c'est que je suis allée. Alors vous allez évidemment, ils ont un beau site internet, puisque le nouveau combat des pros nucléaires se fait maintenant sur les réseaux. Commerciaux et sociaux, et puis sur Internet, donc il fallait un beau site.
Ils ont une grosse représentante, Marine Le Pen, qui a dit qu'elle voulait construire 6 réacteurs nucléaires, démanteler toutes les éoliennes. Ils ont, voilà, l'extrême droite est pro-nucléaire depuis des années, mais là, c'est.
Voilà, en plus, avec Macron qui nous explique que c'est comme ça qu'on sera, qui nous la joue, nous serons autonomes grâce au nucléaire.
D'ailleurs, vous avez des mines d'uranium chez vous, hein, vous le savez pas. Mais personne ne le sait d'ailleurs, mais en fait, ils vont creuser en bas de chez vous pour trouver de l'uranium.
Ah bah ouais, parce qu'il va falloir trouver l'uranium, hein, mes amis, hein, l'autonomie. Elle n'est pas gagnée. Hein. En tout cas, donc, cette nouvelle bataille, évidemment, comme toute lutte aujourd'hui, va se tourner sur Internet. Et donc, je suis allée... faut dire, tout est très très bien fait. Hein. Donc, je suis allée voir l'équipe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve dans cette équipe tout de suite des gens, par rapport à d'autres luttes, on trouve des gens quand même, et j'ai pas fait un ratio, tout ça, pour savoir le pourcentage, mais quand même dans l'équipe, nombreux et nombreuses sont celles qui sont du nucléaire, dans le travail. Ouais. Donc déjà, ils soutiennent leur propre activité économique, il faut quand même le dire. On a Claude Jouan, qui était à la tête de la division combustible nucléaire à Framatome, directeur général de CGN, il a été à Areva, bon, blablabla, je vous passe les délires. Sylvie Herchy, on est là aussi tout de suite dans l'art, lui, dans le domaine de l'informatique, mais il s'est documenté en profondeur, apprend-on, sur de nombreux sujets concernant l'énergie, en particulier l'électronucléaire, et il continue de se tenir au courant, c'est dans sa bio. Et on s'aperçoit comme ça que tous ces jeunes gens, parce qu'il y en a quand même qui sont jeunes, on est plutôt sur du trentenaire, ils sont ingénieurs, hein, en géologie, chez Orano, fin.
Ah bah c'est encore dans le nucléaire, c'est bizarre.
Là c'est Florent Legout, Guillaume Millot, donc lui il est sur, suit les dossiers nucléaires européens pour le gouvernement français, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis ensuite on a le conseil d'administration, et donc on se retrouve quand même avec des gens qui sont à la défense du nucléaire, mais principalement pour des raisons économiques, excusez-moi.
Oui,
je crois pas que ce soit juste pour nos beaux yeux et pour l'économie, pour l'écologie. Hein. C'est un peu facile. Entre Zion et Myrto, on aurait un peu l'impression qu'effectivement on a une nouvelle jeunesse qui veut décarboner notre énergie en nous proposant du nucléaire, mais ça semble un peu facile, je trouve, juste comme excuse. Moi, je trouve que quand même, les gens, ils sont dans leur petit, leur petit secteur d'activité, et que bah il faut sauvegarder son emploi, quoi. Hein. Oui. Ça pourrait demain.
Et dans les structures anti-éoliennes, hein, il y avait des études qui avaient montré que il y a beaucoup d'anciens salariés du nucléaire qui étaient présents dedans. En fait, ils continuent après avoir bossé pour cette industrie radioactive de continuer à militer. contre, enfin, pour cette industrie radioactive. C'est pas systématique quand on a un travail de continuer à militer pour ce travail après, en fait. Et dans le nucléaire, ça marche bien.
Ça marche bien, surtout que c'est des réseaux.
C'est des ingénieurs,
où les gens,
des gens haut placés, en fait.
Et il y a du réseau. On est dans le réseautage, ce côté un peu qui pue. Bon, je dis ça parce que moi, j'ai fait une pauvre fac, hein. Vous voyez, j'ai pas de réseau, quoi. Le truc aussi, c'est que. On a quand même, moi, dans cette longue interview qui date de 2020, mais j'en ai lu d'autres, hein, la question de la décroissance, elle vient jamais sur le terrain, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut trouver, comme M. Macron l'a dit, des solutions pour qu'aujourd'hui, on puisse continuer à fonctionner comme hier, comme aujourd'hui, mais encore plus pour demain. Donc, il n'est pas question de décroissance chez ces pros nucléaires, parce qu'il pourrait l'être, hein, après tout. Ils pourraient nous dire, on va garder nos petits trucs nucléaires. Mais quand même, c'est vrai qu'à un moment, on va arriver à bout. Il faudrait peut-être se calmer. Bon, en tout cas, on les sent aussi dans cette interview de 2020, toutes les deux très proches quand même des politiques et des hommes et des femmes qui sont au pouvoir, hein, dans nos différents pays. Donc voilà, on sent qu'il va falloir quand même se battre parce qu'ils ont des arguments qui sont quand même, hein, sur leur site. Le nucléaire, je cite, « une source d'énergie bas carbone qui ne pollue pas l'air ambiant a le moindre impact en espace occupé et ressources naturelles consommées. » T'étrangle pas, je sens que tu vas mourir.
Surtout sinon. Que ça c'est faux. Hein.
Le nucléaire, je continue la liste, sauve des vies en ayant le bilan humain le plus faible rapporté à l'énergie produite. Oh, mais il doit être content au Japon. À la capacité de décarboner l'électricité, mais aussi la production de chaleur et la combustion thermique par la production d'hydrogène et de carburant de synthèse. Là, ils vous ont mis tous les jolis mots qu'ils ont trouvés dans la même phrase. Le nucléaire est un instrument de solidarité énergétique.
Oh putain, ça va loin.
Tu vas garder ton putain pour toi, mais je comprends ton idée. Le nucléaire est vecteur d'emplois qualifiés, non délocalisables, de recherche scientifique et d'innovation. Là, il y a du Macron derrière. Le nucléaire est un outil indispensable de l'exploration spatiale, un outil inestimable pour la médecine, un outil de sécurité hydrique et alimentaire.
Alors pour la médecine, ça n'a rien à voir, hein, donc on s'en fout.
Mais tu vois, ils ont été chercher tout ce qu'ils ont pu trouver.
Ouais, un petit réacteur juste pour faire les nucléotides dont on a besoin, mais pas le reste.
Voilà, donc il s'agit toujours... de s'intéresser à ces gens et de ne pas hésiter évidemment à les contrer, même quand on manque un peu, vous voyez, c'est simple ce que je vous raconte là, même quand on manque un peu d'arguments techniques, quand on nous dit que c'est un argument de solidarité énergétique, on n'a pas besoin de s'y connaître en nucléaire pour dire que c'est de la merde. Je suis désolée.
Comment tu parles ?
Ouais, voilà.
En tout cas, Radio Canu est décarboné et sans nucléaire.
Voilà. Donc je me suis bien énervée, c'était super.
Voilà.
Il me reste 4 minutes ?
Ouais.
Allez, 4 minutes, juste pour dire aussi qu'il y a Black Friday, vous savez, je bafouille, j'arrive même pas à le dire. Black Friday, qui arrive pour qu'on continue à consommer, parce que quand même, avec notre baisse de charge, on va pouvoir méga consommer, paraît-il. Donc en attendant d'être tous et toutes super riches grâce à Xavier et Michel-Edouard, il faut s'intéresser un peu à ce qui se passe sur Google Actu. Google Actu, vous savez, c'est ce machin que peut-être vous regardez comme ça en vous disant, oh, il y a du titre, et puis moi je vous vois faire dans le métro, hein. Oh là là, ça fait juste défiler le titre, hein. Donc du coup on se retrouve avec que des titres un peu pourris parce qu'il faut que ça vous claque dans l'œil pour que vous ayez ouvrir le lien et puis peut-être trouver un truc à lire avec surtout plein de chouettes pubs autour. En tout cas, sur Google Actu, qui vient donc de Google, hein, de signer des accords avec l'AFP pour les droits voisins. Vous savez, hein, que les journaux, les médias sont enfin rétribués pour l'utilisation que Google en fait. En tout cas, au milieu de tous ces articles, on trouve de la publicité et des publi-reportages amenés exactement de la même manière au milieu des autres articles. Donc, par exemple, on apprend que 20 minutes, hein, il y a Fnac Darty avant-première Black Friday. Donc, moi, j'ai cliqué. Hein, je me suis dit, bon, alors, vachement classe, je vais pouvoir acheter plein de trucs. Et donc, là, on a un publi-reportage. Et il est bien écrit, la rédaction de 20 minutes n'a pas participé à la réalisation de cet article. Donc, on n'est pas sur de l'actualité, on est sur de la promotion, on est donc sur de la pub qui se retrouve au milieu de ces différents articles de Google Actu, et j'en ai trouvé beaucoup, parce que dans le cadre de ce Black Friday, tous les sites qui sont aujourd'hui référencés sur Google Actu, en particulier de ces trucs que Clubic, jeuxvideo.com, tous ces trucs-là, qui ont des tas de pages...
de pub.
De journalisme et de publicité sont extrêmement présents sur Google Actu. Alors par exemple sous clubic.com, j'ai trouvé dans le truc bon plan, un truc écrit par Benjamin Barois, spécialiste des bons plans sur Clubic, j'aime fouiller sur les sites à la recherche de la perle rare et des bonnes affaires, nous explique-t-il. Donc en fait c'est un influenceur globalement qui vient faire donc sa place sur clubic.com et qui donc lui a trouvé 10 promos choc sur Amazon, parce que c'est vrai qu'Amazon a besoin des influenceurs pour pouvoir exister. français, c'est une réalité. Donc voilà, là, il faut arrêter aussi de croire que n'allant que sur Google Actu, on a de la presse et de la vraie presse. Ce n'est pas vrai.
Voilà, il est 20h sur Radio Canyon. On vous laisse en compagnie de la petite cuillère.
Eh ben, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ouais. Ciao.